Et oui, vous êtes bien sur la petite cuillère, c'est jeudi 26 mars sur Radio Canu 102.2 FM. Pour aujourd'hui, on va vous parler de grève de la faim dans différentes prisons Grèce, Royaume-Uni, et j'ai oublié la troisième parce que j'ai pas eu le temps de la noter.
Au Sénégal aussi.
Et voilà. Après, on va parler de la construction d'une nouvelle prison. Il y aura la boîte à outils où on va vous parler de comment faire une demande de parloir et nos rubriques, nos traditionnelles rubriques avec le photomaton, le bruit qui court, Harlem Check, Lima Ongle et Mégaphone, où là c'est plutôt une interview d'une sœur de prisonnière qui va nous raconter la lutte et les conditions de détention dans la tôle de Corba. Et puis on terminera, on espère qu'on aura le temps, par la présentation d'une BD qui s'appelle Panthers in the Hall et qui parle en fait de trois militants du Black Panther Party qui sont pour l'un d'entre eux en tôle depuis 72. Avec un agenda, et puis aujourd'hui on n'a pas vraiment de message pour les prisonniers et prisonnières des tôles de la région lyonnaise. On vous rappelle tout de suite que vous pouvez nous appeler à notre portable 07 81 35 93 71. Notre portable, il est toujours éteint, vous tomberez sur un répondeur. Vous pouvez appeler tous les jours 24 heures sur 24 pour laisser un message d'amour, de soutien, ce que vous voulez à votre proche, à votre ami qui est en tôle. Sinon, vous pouvez nous appeler avant notre émission. Du coup, la prochaine, ça sera le jeudi 9 avril. Vous pouvez nous appeler à partir de 17h30 jusqu'à 19h sur le numéro de fixe du bureau de Radio Canu, qui est les 04 78 29 26 00. Et quand même, si vous avez envie, là, si vous nous prenez en cours de route et que vous n'aviez pas que la petite cuillère diffusait des messages de soutien aux prisonniers et prisonnières, pour les prisonniers et prisonnières de la prison, des prisons de la région lyonnaise, on a un numéro dans notre studio, c'est encore un autre numéro de téléphone, c'est pratique. Si vous n'aimez pas les chiffres, on vous en donne plein. Et vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15. Plutôt quand il y a quand vous entendez de la musique, vous nous appelez, on peut discuter. Et si ça colle, on pourra diffuser un message que vous avez envie de dire à vos potes ou à votre famille. Voilà, et n'hésitez pas à faire tourner le message que l'émission La Petite Cuillère 102.2 FM sur Radio Canu existe et que voilà, c'est une émission de soutien à tous les prisonniers et prisonnières. Et aussi, on relaie les informations, les lettres, les poèmes que vous avez envie de dire par rapport à vos conditions de détention et tout ce que tu avais envie de sortir. Et on a donc aussi une adresse où vous pouvez nous écrire qui est Atelier d'écriture La Petite Cuillère, 91 rue Montesquieu, 6907 Lyon. Et voilà, vous nous écrivez et nous on vous répondra et on est super contents et contentes de savoir que vous nous entendez, que ça vous touche ou ça vous énerve ou que vous avez des idées, des opinions sur ce qu'on dit et surtout vous avez des opinions, des idées et des revendications par rapport à vos conditions de détention.
Et on commence la petite cuillère avec une première thématique qui va nous prendre un bout de temps, c'est les grèves de la faim, parce que il y a beaucoup de grèves de la faim en détention en ce moment, donc pas tant en France, on va plutôt parler de la Grèce, du Sénégal, du Royaume-Uni. Et en Grèce, tout d'abord, les grèves de la faim, ça continue, ça fait un moment que ça dure, ça a commencé le 27 février. On en avait parlé un petit peu, un détenu a commencé une grève de la faim pour exiger son transfert d'une prison à une autre où il pourrait continuer ses études. Et c'était pas sa seule revendication parce que ce détenu aussi demandait l'abolition des prisons de haute sécurité, une invention assez récente en Grèce et qui se répand très vite. Donc en même temps, le même jour, 9 autres détenus de la même tôle se mettaient en grève de la faim en soutien au premier. Quelques jours plus tard, c'était le 2 mars, donc 3 jours plus tard, 11 autres détenus répartis là pour le coup dans plusieurs tôles en Grèce, toujours entrent en grève de la faim et reprennent les revendications du groupe précédent avec l'abolition des prisons de haute sécurité à laquelle elles ajoutent aussi l'abolition des lois antiterroristes et l'interdiction du prélèvement ADN de force qui existe en Grèce. Le prélèvement ADN de force, ça existe aussi en France, ben, ça existe à plein d'endroits. Voilà, mais en tout cas, c'est l'axe de leur lutte en grève de la faim. Et c'était le même jour de mars, et là, c'était une autre grève de la faim qui a été montée en parallèle par d'autres détenus. 11 détenus aussi, un autre groupe du coup suspecté d'appartenance à la conspiration des cellules de feu, qui là sont tous des détenus considérés comme politiques, anarchistes, tout ça, qui sont entrés en grève de la faim suite à l'arrestation de 6 de leurs soutiens et membres de leur famille. Et donc ce 2 mars, ces 11 détenus réclamaient la libération de leurs proches, ce qui a un peu marché, mais toujours, le 4 mars, ces 11 grévistes en fait, ont appris qu'il y avait deux dynamiques en même temps, et du coup, les grévistes de la conspiration des cellules de feu ont gardé leurs revendications de libération de leurs proches, et aussi ont rejoint les revendications des 20 autres détenus, abolition des lois antiterroristes, interdiction du prélèvement ADN de force, et abolition des prisons de haute sécurité. Voilà, tout ça c'était au début du mois de mars que ces grèves de la faim se sont lancées et elles continuent. Et elles suscitent aussi des actes de solidarité à l'extérieur avec une manifestation le 17 mars, c'était il y a 2 semaines, 1500 à 2000 personnes ont parcouru les rues d'Athènes en manifestation en solidarité avec les détenus grévistes de la faim. Et en finale, des barricades ont été montées dans les rues, plusieurs voitures de luxe ont été incendiées. Et voilà, et depuis, des petites actions de soutien qui continuent. Voilà pour la Grèce, et une grève de la faim qui concernait à peu près autant de personnes, mais qui était beaucoup plus courte, c'était au Sénégal, mardi 17 mars. C'était 30 détenus qui ont entamé une grève de la faim dans la tôle de Diourbel pour protester contre la longueur de leur détention préventive, donc en attendant leur procès. Dès le lendemain, le doyen des juges d'instruction s'est déplacé et est allé les rencontrer en personne pour négocier apparemment. Et face aux promesses de ce juge-là, les détenus ont arrêté leur grève de la faim dans la foulée, presque l'après-midi même. Mais ils restent vigilantes d'après les médias locaux. On continue avec le Royaume-Uni, enfin, en ce qui concerne les grèves de la faim. Et là, il s'agit toutes de personnes sans papiers, sans documents de séjour, sans titre de séjour, qui sont détenues dans de nombreux centres de rétention. Il y en a une grosse douzaine au Royaume-Uni. Et la majorité, dans 8 centres de rétention, il y a des grèves de la faim en ce moment. Et du coup, qui ont commencé un peu tout le long du mois de mars, qui se sont essaimés petit à petit, et notamment avec les points forts, c'est 60 personnes à Dungavel en Écosse et 120 à Ardmanworth, près de Londres. Et à chaque fois, ça fait des revendications qui sont tout plein de revendications différentes et qui vont porter sur la longueur des périodes de détention, qui vont aussi, ils veulent protester par là contre leurs expulsions, contre leurs conditions de détention, notamment l'absence de soins et de médicaments, à part des antidouleurs. Apparemment, dans certains centres de rétention, ils reçoivent rien d'autre. Ils protestent aussi contre les humiliations de la part des flics. Ils dénoncent le fait, notamment à Dungavel, en Écosse, que les flics aient coupé l'eau dans tout le centre de rétention pendant 2 jours, suite au déclenchement de la grève de la faim, ce qui est un peu fou de faire ça, couper l'eau totalement. Voilà, et à l'extérieur, ça fait de nombreuses actions de solidarité. Il y a un site en anglais qui relaie nombre de voix et de citations et tout ça de détenus. Je ne vais pas vous le dire à l'oral là, on le mettra sur le blog de La Petite Cuillère, dans les blogs de Radio Canu, on trouvera le lien. Même si c'est tout en anglais, c'est quand même intéressant d'avoir toutes ces voix. Des centres de rétention en lutte, en grève de la faim au Royaume-Uni.
Surtout qu'on n'en trouve pas beaucoup en français. Alors on est bien content quand même d'avoir celle en anglais, même si on galère pour certaines d'entre nous à lire l'anglais. Mais voilà.
C'est toujours La Petite Cuillère sur 102.2 FM Radio Canu. Et on revient en France avec la tôle en construction à Beauvais. Donc on construit des tôles en ce moment
c'est
en France.
Beauvais,
Beauvais dans Picardie, nord de Paris, tout ça là. Quand on est à Paris et qu'on va direction Lille, mais on s'arrête à mi-chemin.
Ah ok.
Donc en ce moment, l'entreprise Spibatignol tient la corde du juteux marché de construction de tôles. Elle construit celle de Rion à l'ouest, nord-ouest de Lyon, et aussi celle de Valence au sud de Lyon. Mais là, on parle de Beauvais, parce que rien que pour Beauvais, c'est un marché de plus de 85 millions d'euros, donc il y a de quoi s'en mettre plein les poches. Pour une tôle de presque 600 places en cellules, avec des cellules individuelles notamment de 8,5 mètres carrés, comme quoi il n'y a pas de honte. Tout le monde parle de 9 mètres carrés en cellulement individuel, de la loi de 1875, toujours pas respectée, qui dit 11,5 mètres carrés minimum par détenu. Et non, parce que Spibatignol construit en ce moment des cellules individuelles de 8 mètres carrés et demi. Il n'y a pas de honte, et voilà. Et les Spibatignol aiment construire des tôles, mais il aime aussi faire des économies et embauche donc des entreprises sous-traitantes, en fermant les yeux, bien sûr, sur les conditions de travail. C'est pas la seule boîte qui fait ça en France, il y en a plein dans plein de secteurs d'activité différents. Mais depuis la semaine dernière, il y a comme un malaise sur le chantier, parce qu'il y a eu un contrôle et le dirigeant d'une entreprise sous-traitante s'est fait choper et 5 de ses 6 employés ont été arrêtés pour travail clandestin, non déclaré. Voilà, personne qui n'avait pas de permis de travail non plus. Du coup, qui produisait des faux papiers et surtout des salaires très bas, payés en liquide, parfois pas payés du tout, et des conditions de travail dégueulasses pour installer le réseau électrique dans la prison. Du coup, le patron de la PME et les 5 employés sont en tôle, pas à Beauvais parce qu'elle n'est pas finie, mais dans d'autres tôles, et on espère simplement que les employés vont s'en sortir, parce qu'au final, c'est eux qui trinquent, et alors que c'était eux qui étaient tout en bas et qui s'en prenaient plein la gueule déjà à pas être payés et à travailler sur ce chantier. Quant à Spibatignol, la boîte ne sera sans doute jamais inquiétée, il ne faut pas trop se faire de mourons pour eux.
Ils ne sont pas comme les assos à un moment qui faisaient du soutien à personne en situation irrégulière sur le territoire français, du coup, qui pouvaient se prendre une garde à vue. Non, le patron, il n'a pas eu ça.
Non.
Étrange.
Je suis Batignol, non. Il restait loin des emmerdes.
On rappelle qu'à Valence, il y a une lutte contre la nouvelle tôle.
Et ouais.
Et ouais. Si vous voulez avoir plus d'infos, pareil, Internet. Et voilà, c'est ça la nouvelle information.
La boîte à outils, une rubrique pratique pour les détenus et leurs proches.
Alors nous, on continue la lecture du guide à l'usage des proches de personnes incarcérées qui a été fait par le collectif Soledad et Associés, qui un peu explique tout ce qu'il faut savoir autour de la tôle. Maintenant, on en est à obtenir un permis de visite. Pour info, pareil, le guide, si ça vous intéresse de l'avoir, vous pouvez nous contacter sur notre blog de La Petite Cuillère, nous dire que vous voulez avoir plus d'informations, comment se procurer ce guide ou savoir où se procurer, et on essaiera de vous répondre. Vous pouvez faire des commentaires en fait pour nous dire des remarques ou en savoir plus, parce que pour l'instant on n'a pas de mail. Et oui, aussi étrange que ce soit, nous n'avons pas de mail associé à notre blog.
Mais on a toujours une adresse postale.
C'est ça, sinon vous pouvez nous écrire. Et en tout cas, à la Lutine, 91 rue Montesquieu, là où on peut, là où vous envoyez les lettres, il y a des guides à l'usage des proches de personnes incarcérées si vous voulez l'avoir en main propre. Aller au parloir montre à la personne détenue qu'elle n'est pas seule, qu'on la soutient au quotidien. Cela permet de prendre des nouvelles et d'en donner autrement que par le courrier. Au parloir, on peut nouer des liens avec les autres personnes qui viennent visiter, échanger les expériences et s'entraider concrètement entre proches. Ainsi, on subit moins la pression, on se laisse moins mettre la pression par l'administration. Pour rendre visite à une personne détenue, il faut avoir un permis de visite. C'est la première étape. Alors, comment obtenir un permis de visite ? C'est que des conseils, du coup, vous prenez comme vous voulez, mais c'est des conseils pour bien vivre l'incarcération d'un proche. Je le répète, c'est important de se redire ça. Du coup, eux, ils proposent de discuter de cette démarche avec la personne détenue, soit en lui écrivant un courrier, soit par l'intermédiaire de son avocat. L'obtention du permis est parfois longue, il ne faut pas se décourager. Un parloir est à la moment est un moment à la fois de répit, mais aussi de douleur et de frustration. Certains préfèrent éviter ce moment, sachant également les vexations que subissent les visiteurs. Passage sous le portique, longues attentes, les frais et la fatigue que cela peut impliquer. Le détenu peut appuyer votre demande de permis auprès de l'autorité compétente par un courrier. Pour certains détenus, en particulier les politiques et ceux classés détenus particulièrement signalés ou DPS, les demandes sont systématiquement refusées si elles n'émanent pas de la famille et encore. Mais faire la demande est aussi un moyen d'exprimer sa solidarité et vous pouvez régulièrement renouveler votre demande. Alors là, je vais vous expliquer les démarches. Le permis de visite s'obtient pour les prévenus. Alors les prévenus, j'explique quand même, c'est ceux qui ne sont pas encore condamnés, qui sont en attente du procès et qui sont déjà en taule. Alors pour le permis de visite des prévenus, c'est auprès du juge d'instruction et pour les condamnés, auprès du directeur de la prison. Et les autorités qui délivrent le permis peuvent, avant de l'accorder, demander une enquête de personnalité. Lors d'une demande de permis auprès d'un directeur, il faut généralement signer un formulaire autorisant cette enquête. Suite à une demande de permis de visite, on peut être convoqué soit au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile, soit au service de police chargé de l'enquête sur les faits pour lesquels la personne est incarcérée. Il peut arriver que les enquêteurs en profitent pour vous mettre la pression, vous interroger ou effectuer une prise d'empreintes digitales ou d'ADN. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, d'autant plus qu'il faut faire attention à ne pas donner des informations qui pourraient nuire aux détenus, et c'est toujours possible de refuser les prises d'empreintes digitales ou d'ADN. Pour les personnes étrangères, il faut normalement être en situation régulière pour obtenir un permis de visite. Les juges ou les directeurs dérogent parfois à cette règle. Si vous faites une demande de permis, soyez prudent, car cette démarche peut donner beaucoup d'occasions aux services de police pour vous arrêter. Par exemple, si vous donnez votre lieu habituel de résidence, l'adresse de votre travail, tout ça, bah les fichiers peuvent être recoupés. Il est préférable de se rapprocher d'un avocat ou d'une association pour évaluer les risques encourus, et même d'en parler avec vos amis et de questionner pour savoir les risques que vous prenez. Vous devez envoyer la lettre expliquant votre lien de parenté avec la personne ou la nature de vos liens, concubinage, collègue, ami, ça c'est pour tout le monde. En joignant deux photographies, une photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou de votre carte de séjour, ainsi qu'une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse. Pour un exemple de lettre, voir la page suivante. Alors je vous lis la lettre et puis je me dis qu'un jour ça serait chouette qu'on puisse mettre un exemple sur notre blog, mais bon, on verra, en attendant il y a toujours ce guide, parce que des fois c'est galère en fait de trouver les informations, c'est vraiment galère pour trouver les informations sur internet et aussi d'avoir des exemples. Alors pour la demande de permis de visite, il faut d'abord écrire votre nom, prénom, votre adresse. Pour les condamnés, monsieur, madame, la directrice, le directeur, prison de nanana. Pour les prévenus, monsieur ou madame le juge, tribunal de grande instance de, avec l'adresse. Il faut mettre le lieu et la date avec un objet, permis, demande de permis de visite. Et là, c'est un exemple de lettre que vous pouvez écrire. Monsieur ou madame le ou la directeur, directrice, monsieur ou madame le, la juge. Il faut adresser, commencer par saluer la personne à qui vous demandez. Je vous écris afin de solliciter de votre part un permis de visite pour le prénom et le nom de la personne que vous voulez aller voir. Incarcéré à au nom de la prison, sous le numéro d'écrit. Vous trouverez ci-dessous les informations me concernant, mon nom et prénom, adresse, date et lieu de naissance. Et là, vous expliquez pourquoi. Je tiens à rendre visite à... cette personne, parce que c'est mon frère, mon ami, faut indiquer le lien de parenté, afin de lui apporter mon réconfort, afin de discuter de son avenir, et faut éviter les polémiques. Et si il n'y a pas de lien de parenté proche avec la personne incarcérée, faut faire une phrase sur votre relation d'amitié et l'importance qu'elle a. C'est un très bon ami et je souhaite le soutenir durant son incarcération. Vous pouvez évoquer votre absence de lien avec l'infraction que vous avez, et que vous avez un casier vierge, par exemple, pour que ça marche mieux. Ou sinon, vous pouvez éviter d'écrire cette phrase si vous n'avez pas envie de jouer le jeu du bon et mauvais élève. Vous pouvez prendre l'occasion de la proximité d'un anniversaire, le vôtre, le sien, de ses enfants, ou de fête, pour dire que vous espérez lui rendre visite à ce moment important pour vous, votre famille ou votre groupe d'amis. Et après, veuillez trouver ci-joint, copie recto verso de ma carte d'identité ou passeport ou carte de séjour, deux photos d'identité, enveloppe timbrée et libellée à l'adresse de la personne qui fait la demande, justificatif du lien de parenté, si par exemple vous pouvez mettre une copie du livret de famille, justificatif de domicile, par exemple une copie d'une facture d'EDF de moins de 3 mois. En vous remerciant d'avance de l'attention que vous apporterez à mon courrier, je vous prie de croire, monsieur ou madame le directeur ou la directrice, ou monsieur ou madame le juge, à mes sincères salutations et vous signer. Conseil, envoyez des garanties de bonne moralité, du coup c'est vraiment entre guillemets, sans toutefois en faire trop. Par exemple, des fiches de paye, déclaration d'impôt, taxe d'habitation, quittance de loyer ou d'EDF, casier B3 s'il est vierge, pour faciliter l'obtention du permis. Pareil, ça c'est si vous flippez, et voilà, mais c'est vous pouvez essayer une fois sans mettre trop de preuves à côté. Si vous pensez qu'un certificat de concubinage apportera plus de poids à votre demande, vous pouvez faire la démarche en ce sens, ou sinon un bail avec les deux noms peut également faire l'affaire. Vous pouvez joindre à votre demande un courrier signalant votre envie de soutenir votre proche, notamment dans la perspective de sa sortie, si elle n'est pas trop lointaine. Il ne faut pas hésiter à s'inventer des liens familiaux, quitte à en rajouter. Parfois, on peut s'entendre sur les différentes demandes de visite pour que les personnes n'ayant pas les garanties de représentation nécessaires et ou des liens de parenté assez proches fassent la demande en premier pour que ça passe en premier. En utilisant l'argument, le détenu n'a pas encore de visite et il en a besoin, du coup, je veux le soutenir. Comptez 3 semaines pour obtenir une réponse. Mais la décision peut prendre beaucoup plus de temps, notamment si une enquête de police est faite sur vous. N'hésitez pas à téléphoner régulièrement soit au bureau du juge d'instruction, soit à la prison, afin de connaître la décision. Il arrive que la réponse ne soit pas envoyée, et donc non motivée, ou que la prison reçoive le permis avant que vous ayez la réponse. Les recours, du coup, si vous êtes refusé et que vous voulez, vous avez des possibilités de faire appel de la décision de refus. Malheureusement, souvent déçus ou humiliés en cas de refus de permis, les proches n'utilisent pas toujours tous les moyens de recours existants. Il existe pourtant quelques possibilités. Pour les prévenus, le juge d'instruction n'est tenu ni de répondre ni de motiver son refus de délivrer un permis de visite aux personnes n'appartenant pas à la famille du détenu. Celles-ci n'ont aucun recours, mais peuvent envoyer autant de demandes de permis qu'elles le souhaitent. Alors, faut pas hésiter à renvoyer. Si au bout de 3 semaines, vous n'avez pas de réponse, et vous refaites une lettre et vous réinsistez.
Et encore une.
Par contre, après le premier mois de détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser un permis de visite à un membre de la famille du détenu que par une décision spéciale et motivée par rapport aux nécessités de l'instruction. En cas de refus, les membres de la famille peuvent faire un recours dans les 10 jours après la notification de la décision devant le président de la chambre de l'instruction. Du coup, là, ça devient un peu contraignant, je vous l'accorde, parce que 10 jours, c'est 10 jours, et ça, c'est assez chiant. Il devra statuer dans les 5 jours par une décision écrite et motivée. Cette décision n'est pas susceptible de recours. Si le président de la chambre d'instruction annule la décision du juge d'instruction, c'est lui-même qui délivre le permis. Pour les condamnés, le CPP autorise
le code de procédure pénale. Pardon.
Ah, merci, j'étais là, mince, c'est quoi, Justin? Ce sigle autorise des personnes extérieures à la famille à leur rendre visite si ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle du détenu, constituent un soutien, justifient plus largement d'un intérêt pour visiter la personne. Ça, c'est la circulaire du 20 février 2012 qui rappelle ça. Sauf en cas de motif lié à la sécurité et au bon ordre de l'établissement, le directeur ne peut pas refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. La circulaire DAP du 20 février 2012 demande au directeur de prendre la notion de famille au sens large, en considérant par exemple qu'une personne qui partage l'autorité parentale sur un enfant avec une personne détenue, même si elle n'est ni son conjoint pacsé ou marié, ni son concubin, est un membre de sa famille. Si un directeur refuse de délivrer un permis, qu'on soit ou non membre de la famille du détenu, il faut refaire la demande auprès du directeur, puis effectuer un recours hiérarchique, c'est-à-dire une nouvelle demande qui mentionne le refus du directeur et si possible argumenter auprès du directeur interrégional de la paix, du coup auprès du supérieur du directeur de la prison. En cas de nouveau refus, un recours est possible devant le tribunal administratif dans les 2 mois. Du coup, ça veut dire que là, on va au-dessus de l'administration pénitentiaire. On sort pour faire savoir l'affaire et voir s'il y a un problème, quoi. Et si vous n'avez pas pour obligation de désigner un avocat pour ces procédures, vous pouvez choisir de faire tout vous-même, toutes ces démarches. Ce recours peut s'appuyer sur le CCP article D404 et sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article 8. Quoi qu'il arrive, c'est important d'insister et de ne pas lâcher l'affaire. J'ai bientôt fini, c'est un peu laborieux mais c'est important.
Là, c'était... Sur les parloirs, oui. Mais là, c'était un peu tous les trucs de recours et de recours et de recours, mais souvent, on n'en arrive quand même pas là, on arrive à avoir un parloir avant ça.
Et puis, c'est bien de savoir, en fait, qu'on n'est pas seul face au directeur de la prison et qu'en fait, il y a des structures extérieures, même si c'est laborieux, ce que ça veut dire faire des papiers, s'affronter à des juges et tout ça, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir que l'administration pénitentiaire, même si elle fait sévir l'arbitraire dans les tôles, et ben voilà... Elle n'est pas seule en fait, mais bon. Durée de validité du permis de visite. Les permis de visite sont normalement définitifs, sauf s'ils sont délivrés à titre exceptionnel pour un nombre de visites déterminé, ce qui est alors précisé sur le document. Lorsque le permis est délivré par le juge d'instruction, il est valable jusqu'à ce que la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. Il continue à être valable même si le dossier est transmis à un nouveau juge d'instruction. Cependant, l'autorité judiciaire nouvellement saisie peut supprimer, suspendre ou accorder un nouveau permis de visite. Une fois le détenu définitivement condamné, il faut en principe faire une nouvelle demande de permis de visite, cette fois au directeur. Mais en pratique, les permis obtenus durant la détention provisoire sont maintenus sans nouvelle procédure. Et je vais terminer tout ça avec « et les enfants ». Les enfants doivent avoir également un permis de visite, même si dans certaines prisons, le livret de famille peut suffire pour les plus jeunes. Il n'est pas simple d'emmener un enfant au parloir, surtout si c'est également votre premier parloir. Rendez-vous d'abord seul au parloir, ce sera plus facile ensuite d'y aller avec un enfant. Prenez en compte l'âge de l'enfant, sa personnalité et la vie de la personne incarcérée. C'est dur aussi pour le détenu de voir son enfant dans un pareil lieu. Si aucun proche ne peut ou ne veut emmener un enfant rendre visite à son parent incarcéré, prenez contact avec le relais enfant-parent. Ils peuvent le faire bénévolement, entre parenthèses, il faut se renseigner, mais sous certaines conditions, absence de retrait de l'autorité parentale notamment. Dans certaines prisons, il y a des parloirs spécialement aménagés pour les enfants. Le plus souvent, c'est sinistre. N'oubliez pas que le temps d'attente est souvent long. Il est possible de prendre un jouet, mais il sera comme les biberons, contrôlé. La vodka dans le biberon, c'est une mauvaise idée. Les enfants sont soumis au même contrôle que les adultes. Évitez qu'il ait à passer plusieurs fois sous le portique en veillant particulièrement à ce qu'il ne porte ni vêtements, ni ceinture, ni bretelles susceptibles de déclencher le portique. Pour les plus petits, certains établissements prêtent une poussette aux visiteurs une fois le portique passé. Tout visiteur mineur doit en principe venir au parloir accompagné par une personne majeure qui a, elle aussi, un permis de visite. Si le mineur est âgé d'au moins 16 ans, si les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale en donnent l'autorisation écrite et si la visite est rendue à une personne titulaire de l'autorité parentale à son égard, il est possible de se dispenser de cet accompagnateur. Voilà, la semaine prochaine, dans 15 jours, on continuera avec le premier parloir et notamment, il y a une lettre... d'une personne qui dit comment elle a vécu son premier parloir et qu'est-ce que ça lui a fait. Voilà, du coup, c'était le guide à l'usage des proches de personnes incarcérées.
Ici, c'est le ghetto, la zone. Appelle ça comme tu veux. Je sais pas, moi, on dirait qu'on a la poisse, truc chelou. Mais bon. Pas une raison pour s'enfoncer, chaque jour un peu plus. Qui s'arrange qu'on soit si bas, ce qui fait qu'on en veut toujours plus. Une seule astuce, ne rien avoir à se reprocher. Avec la tête qu'on se paye, on est déjà jugé, condamné. Faut pas parler d'égalité dans le pays de la double peine. Y'en a qui ont jamais mis les pieds au pays, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Des locs qui peuvent plus passer de cacheton. Skin vrai, j'aime France, changement de régime, la loi du pognon. C'est autre chose comme de passer du coq à l'âne. Combien de familles éclatées par l'échec, là comme chacun son justice drame. Pour tous, attaquez-vous à ceux de votre taille. Sinon on rentre dedans, et je t'assure qu'on fera pas de détails. Justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite d'en bas, créer la secousse. Car c'est pas nos vies qu'on facilise, ça va si vite. Hier c'est loin, je dirais même ça date. Pas une raison pour oublier les flics et leur cause, ça va. Justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite d'en bas, créer la secousse. Car c'est pas nos vies qu'on facilise, ça va si vite. Hier c'est loin, je dirais même ça date. Pas une raison pour oublier les flics et leur cause, ça va.
Moi j'ai de la colère dans le cœur quand je vois un flic meurtrier, des bavures étouffées, dossier classé, tiroir secret. Situation critique, un frère s'est fait buter, y'a trop d'histoires tragiques.
Les deux flics mutés, encore une famille en larmes. Une paire qui est des gendarmes, encore une famille en deuil qui se demande qui lui porte l'œil. Encore des bagnoles qui brûlent ce soir et des vitrines qui pètent. Et le rouge dans nos yeux, c'est la haine qui se reflète. Police partout, mais justice nulle part. Une seule chose est sûre, ils paieront tôt ou tard. Sous chaque uniforme, il y a une ordure qui répond aux ordres, qui régit le désordre, nous accuse quand ça déborde. De Barbès aux Minguettes, des quartiers nord au Mirail, c'est toujours la même cible. Quand ils sortent leur attirail, y'a pas de solution, j'ai l'impression et ça me rend dingue. Pose ta plaque et ton flingue, on verra c'est qui la baltringue. Tout est calculé, faut faire attention à nos pas. Les frais sont chers à payer, surtout les frais d'avocat. La liberté, l'égalité, tout ça, ça leur est égal. Et quand tu croises la bâcle le soir, cours plus vite que les balles. Une justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite. D'en bas, créer la secousse, car c'est pas nos vies qu'on facilite. Ça va si vite, hier c'est loin, j'dirais même ça date. Pas une raison pour oublier les flics et leur coup de savane. Une justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite. D'en bas, créer la secousse, car c'est pas nos vies qu'on facilite. Ça va si vite, hier c'est loin, j'dirais même ça date. Pas une raison pour oublier. Paraît qu'on est égaux les gars et que le monde est beau. Pas quand les flics pétagent, j'ai aussi la rage et encourage ceux qui niquent l'état. Si on crève, on n'est pas pro, y'a trop d'épreuves. Comme prouver au juge que le soupçon n'est pas une preuve. Rêve, je crève dans ta tête même. Dis-le à ta dynastie, on prendra l'Elysée comme les anciens ont pris la Bastille. Pour une justice pour tous, je l'écris et c'est lisible. Elle est imprévisible, c'est pour elle qu'on court tous. L'État assassine, nous bassine, nous jette à la scène. À la pensée malsaine, et oublie nos racines. C'est nos vies qu'on veut protéger. On fumera les bénéfices et les crédits s'y prédisent un futur trop léger. On a la motive, tant pis si tu la vois pas. Marche pas au ralenti, mon bonheur n'est pas à trois pas. Pas aux droits de l'homme, tant qu'on est pris pour le gibier, tant que le pays sans pitié broie de l'homme.
Une justice pour tous, une justice pour tous, une justice pour tous, une justice pour tous.
Ouais.
Ça va si vite, ça va si vite, ça va si vite. C'est pour ça qu'on pousse et qu'on milise, qu'on pousse et qu'on milise.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canus en 2.2 FM et comme tous les deuxièmes, quatrième et cinquième jeudi du mois, c'est l'émission La Petite Cuillère. Alors ce soir, on a eu un appel d'un témoignage d'une proche de détenue. Il s'agit de Florence Macarès, qui disait qu'on peut la citer à l'antenne, dont la sœur est incarcérée, et est incarcérée à Corba depuis octobre 2014. Donc on a pu l'enregistrer, on écoutera ça. Avant, je voulais préciser quelques faits qui se passent, que du coup elle m'a décrite au téléphone. Apparemment, donc sa sœur n'a pas de documents sur sa détention et n'a pas accès au dossier d'instruction. Apparemment, elle serait en détention préventive et elle galère énormément parce que voilà, parce qu'il n'y a pas accès au dossier d'instruction, parce que il n'y a pas non plus d'avocate qui reste, parce que beaucoup d'avocates abandonnent face au silence de la juge d'instruction. Peut-être une va rester. Et voilà, et elle ne sait, sa sœur ne sait toujours pas où sont ses propres enfants, donc ne peut pas les voir en parloir. Et ce qui fait que la famille se retrouve à lutter contre l'administration pénitentiaire, se retrouve en but un peu au silence de la juge, et voilà, essaie de faire bouger les choses à droite, à gauche. On va l'écouter parler à propos du coup des conditions de détention de sa sœur à la prison de Lyon-Corba, dans le sud de Lyon.
Bonsoir. Du coup, vous dites que votre sœur, elle est incarcérée à la prison de Lyon-Corba.
Oui.
Depuis combien de temps?
Elle est incarcérée à la prison de Lyon-Corba depuis le jeudi 4 octobre 2014. Ça fait presque 6 mois maintenant.
D'accord, et vous dites à la prison de Lyon-Corba, les conditions, elles sont compliquées d'incarcération.
Oui, c'est très compliqué et vraiment bizarre parce qu'en fait, elle est là-bas et elle, quand elle veut demander à avoir des accès aux soins, on lui refuse on lui répond pas, on le rigole au nez. Et voilà, on le coupe le téléphone de temps en temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses bizarres. Ses courriers, ils sont interceptés. Quand c'est des courriers importants, ils sont interceptés. Les courriers de sa famille aussi sont interceptés. Il y a plein d'autres choses, mais qu'elle ne peut pas nous parler parce qu'elle nous a dit que si elle parle, elle risque d'avoir encore plus de problèmes. Elle veut nous dire des choses, mais elle a peur en fait.
D'accord. Et est-ce qu'elle arrive à avoir des parloirs quand même?
Bah, le parloir, elle a réussi à avoir un parloir que récemment, depuis fin décembre, début janvier. C'est une de mes sœurs qui habite à Toulouse, qui gère un magasin, qui a eu accès au parloir. D'ailleurs, elle a fait la demande depuis le début, mais elle a eu la réponse que quelques mois plus tard. Et le problème, c'est que ma sœur ne peut pas descendre tous les jours de Toulouse-Lyon pour parler avec ma sœur. Donc les parloirs sont rares.
Et les autres parloirs, ils lui ont été refusés?
On n'a pas eu de réponse en fait. Je ne peux pas dire qu'elle a été refusée, ça n'a pas été considéré.
D'accord, ils n'ont jamais donné suite, du coup il n'y a qu'une de ses sœurs qui peut aller la voir.
Oui, c'est déjà ça quoi.
Ouais. Oui. Et vous dites, et aussi, est-ce que par exemple pour l'accès aux soins, ça se passe comment?
Bah, pour l'accès aux soins, ma sœur pendant presque une semaine, elle nous a dit comme quoi qu'elle a eu des saignements, une hémorragie. Et une grosse hémorragie, et qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Et elle a demandé de l'aide tous les jours, et l'infirmière ne voulait pas l'aider, le médecin non plus. On lui rigolait au nez, en fait. Donc elle est restée comme ça, et après elle s'est remise petit à petit comme elle pouvait. Et une semaine après, bah, ça s'est arrêté, et puis quand elle est revenue voir l'infirmière, et ben, on lui a dit « Ah, c'est bizarre que vous avez guéri ». On lui a répondu ça comme ça, en fait.
Ah d'accord, du coup elle n'a jamais pu voir l'infirmière avant de guérir d'elle-même finalement.
Non, parce qu'elle pouvait pas bouger, elle a dit qu'elle avait les jambes lourdes. Elle avait les jambes lourdes, elle était engourdie et elle avait vraiment mal.
Et avec si peu de parloir, elle arrive à avoir des affaires quand même, ses effets personnels, des habits, tout ça?
Bah les vêtements, il y a des vêtements qui donnent pas. Donc parce que peut-être à Lyon Corba c'est difficile, c'est strict, donc il y a des vêtements qui donnent pas, mais il y a des vestes aussi que nous on donnait, c'est des vestes très chauffantes, très épaisses, mais ils ont refusé. Ils prenaient que des petites vestes un peu légères, etc. On n'a pas compris pourquoi.
Alors qu'on est en plein hiver.
C'est pas si bizarre quoi. Pardon?
Alors même qu'on est en plein hiver.
Oui voilà. Les vestes, elles étaient vraiment, je sais pas, ça fait du genre veste pour je sais pas, pour courir dehors, je sais pas, jogging, tout ça. C'est pas une vraie veste en fait, épaisse, longue. Etc. Bien rempli quoi, de l'intérieur, etc. quoi. Mm-hmm. Donc ma soeur m'a dit qu'elle avait très froid et puis elle n'avait pas demandé tout de suite les gants, donc elle est restée sans gants pendant plus de un mois quoi. Elle n'avait pas de gants, elle n'avait pas des chaussettes épaisses. Elle avait vraiment froid. Et puis en prison, les filles, c'est chacun pour soi. Hein. Ils ne feraient pas leurs vêtements comme ça quoi.
Elle sent pas de solidarité de la part des autres détenus du quartier femmes de la maison d'arrêt de Corba, tu dis?
Bah, elle me disait qu'au début, si, quand elle venait juste d'arriver au mois d'octobre, il y avait un peu de solidarité, mais elles sont parties, parce que les filles restent pas longtemps en prison, en fait. Mm. Donc elles sont parties, c'est des nouvelles qui sont arrivées, et là, avec les nouvelles, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Donc c'est vraiment chacun pour soi, faut vraiment avoir une famille qui aide la personne qui est en prison pour recevoir, pour envoyer de l'argent, pour avoir le droit de parler au téléphone et tout ça, quoi.
Ok. Et vous avez d'autres choses à rajouter comme ça sur les conditions à Corba, sur ce qui se passe?
Bah pour les conditions, bah oui. Je voulais juste dire que c'est pas normal que ma sœur elle est en prison et qu'elle ne sait pas pourquoi elle est en prison. Après bon c'est vrai qu'on va trouver ça bizarre que je dis ça, mais ma sœur elle nous a dit plusieurs fois au téléphone qu'elle avait aucun document officiel, c'est ça le plus important, c'est qu'elle n'a pas de document officiel qui lui dit pourquoi elle est en prison, pour combien de temps, est-ce qu'elle va rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, on ne sait pas, et surtout où se trouvent ses enfants, parce que ma sœur elle est mère de deux enfants de 2 ans et 6 ans, et elle veut vraiment savoir déjà d'un premier temps où se trouvent les enfants par politesse et c'est humain quoi, ma sœur elle voudrait qu'on la traite comme un humain, pas comme n'importe comment en fait, c'est pas un chien quoi.
Bien sûr, et du coup, elle peut pas les voir au parloir non plus, si elle peut même pas les contacter.
Ma sœur, elle peut vraiment pas les contacter, que ce soit l'école, la maison du Rhône, le juge, les avocats, enfin tous ceux qui s'occupent des enfants, on sait pas c'est qui a les enfants réellement, ne veut pas dire à ma sœur où ils se trouvent, parce que le jugement le 3 mars, le juge, il a posé la question devant tout le monde, il y avait les gendarmes, tout le monde était là, où se trouvent les enfants, l'avocate de son mari a répondu oui, les enfants vont bien, c'est tout. Et après, le juge, il s'est contenté de la réponse de l'avocate, de la partie adverse. Et ma sœur, elle a crié haut et fort, elle a dit, mais pourquoi vous ne me dites pas où sont mes enfants, j'en ai marre, jugez-moi, donnez-moi 3 ans de prison, qu'on en finisse. Pourquoi vous n'arrivez pas à me juger? Et où sont mes enfants? Elle a crié comme ça, elle avait marre, quoi. Elle veut savoir où se trouvent mes enfants, même si c'est peut-être un truc faux. Pourquoi ils ne lui disent pas oralement où se trouvent les enfants? C'est pas normal. Ma mère, ma sœur, elle est... Elle a 28 ans, elle est mère de 2 enfants. Apparemment, c'est des enfants métis. Alors peut-être qu'ils veulent voler les enfants métis de ma sœur, je sais pas. Ça a plus de valeur, quoi.
On sait pas, mais...
Ouais, on sait pas, ouais. Ça... Faut laisser les gens réfléchir par eux-mêmes tout seuls. Voilà.
Et voilà, c'était du coup... Florence Macarès qui lutte du coup pour essayer de faire sortir sa sœur de Corba ou au moins de voilà, améliorer un tant soit peu les conditions de détention, qui poste aussi des vidéos sur YouTube récemment et pour expliquer son cas et puis pour faire vivre un peu son histoire. Voilà, et on va continuer avec avec une petite rubrique photomaton. Parce que... Ah non, pardon, avant...
Ah, tuc, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est toujours sur les petites cuillères. On rappelle vite fait les numéros, la... pareil, l'adresse.
Parce que la petite cuillère est contente d'avoir vos témoignages et vos messages pour les détenus.
Du coup, on vous remercie, Florence, et puis d'avoir bien
d'avoir
voulu...
Appelé...
témoigner publiquement, dire, voilà, de mener cette lutte, d'avoir appelé et de porter un soutien à sa sœur. Et on te salue aussi, t'écoutes en ce moment notre émission dans la tôle de Corba.
Et oui, bien sûr. Et du coup, pour tous les autres, toutes les autres qui voudront appeler et aussi laisser des messages comme ça, eh ben, ce sera avec plaisir. C'est de 17h30 à 19h, les jeudis avant les émissions. Au 04 78 29 26 00. Ça peut être aussi tous les jours, toute la semaine, sur le 24 heures sur 24, sur un répondeur au 07 81 35 93 71, 07 81 35 93 71. Et enfin, vous pouvez nous écrire physiquement par courrier à l'atelier d'écriture La Petite Cuillère, 91 rue Montesquieu, 69007, Lyon.
Et là, s'il reste encore 20 minutes d'émission, du coup, vous pouvez nous appeler aussi dans les studios au 04 78 39 18 15, si vous voulez, pendant les petites pauses musicales, ce serait plus pratique pour nous. On enchaîne avec la photomaton.
La photomaton, parce que dans cette émission, on donne beaucoup de nouvelles des détenus, on donne beaucoup de nouvelles des prisons, et dans les prisons, il y a aussi des matons. Alors, bon, pendant quelques minutes par émission, pas trop non plus, parce que ce serait vite une overdose, mais on regarde qu'est-ce qui se passe du côté des matons. Alors, c'est la photomaton.
À la maison d'arrêt de Pau, il y a en ce moment un chantier de rénovation de la porte principale. Les matons pourraient s'en réjouir, eux qui réclament toujours plus de sécurité. Mais non, ils ont encore trouvé un prétexte pour bloquer la tôle mardi dernier, faire chier les détenus, les familles, les avocats. Ils veulent la sécurisation du chantier lui-même.
Le bruit qui court...
Et le bruit qui court commence avec le 12 mars. Un détenu se suicidait dans la prison de Bordeaux. Et là, c'est la mauvaise série parce que selon l'administration pénitentiaire, elle-même, c'est le 3e suicide en 3 semaines dans cette même tôle. Donc, comme d'habitude, l'administration pénitentiaire ne change pas ses pratiques pour autant et on ne sera pas surpris d'en voir d'autres, bien malheureusement.
Le même jour, à Colmar, 3 détenus se sont vus refuser des dommages et intérêts par la justice. Ils avaient porté plainte contre l'État pour des conditions de détention dégradantes. En effet, à 3 dans 9,1 mètres carrés, sans aération, avec un chauffage inexistant et des douches ultra vétustes. Il y a de quoi de se plaindre, surtout quand on sait que... enfin, pardon, je rigole, du 0,1 mètre carré. C'est précis.
Ah oui, 9,01 mètres carrés. Mmh. L'administration pénitentiaire est au-dessus des 9 mètres carrés.
Mmh. Mais quand même, il fout 3 personnes dedans. Quoi. Voilà. Mais non, la cour d'appel administrative a refusé de prendre cela en compte après un premier refus du tribunal administratif. Pour l'État, tout va bien.
Et on continue, c'était dimanche 15 mars, c'était un détenu au mitard de la tôle de Coulaines, près du Mans, qui a mis le feu à sa cellule. Il n'a pas été blessé. L'administration pénitentiaire ne dit rien de ses revendications. De notre côté, on peut émettre une supposition, peut-être que le seul fait d'être au mitard était déjà une raison légitime pour y foutre le feu.
Et le lendemain, 16 mars, à la tôle d'Uzerche, près de Brive-la-Gaillarde, au marché de Brive-la-Gaillarde, un détenu a mis le feu à sa cellule. Le lendemain, il refait la même. Selon la paix, il réclame un transfert. On espère qu'il l'aura.
On continue et c'est moins joyeux, parce qu'à nouveau, mardi 17 mars, un détenu est décédé dans la tôle de Farlède, dans le Var. Selon l'administration pénitentiaire, c'est un suicide. Cette personne, au début de l'année, c'est un homme de 70 ans, a pris une peine de 20 ans de détention en janvier 2015. Il était donc sûr de finir ses jours en prison.
Et le 19 mars, en début de soirée, la tôle de Nîmes a été la cible de rafales d'armes automatiques. De Nîmes, pas de Nice, de Nîmes. Quelques vitrines brisées et des éclats sur le béton d'un mur d'enceinte. Les tireurs, tireuses n'ont pas été retrouvés. Il ne fait pas bon d'être au maton.
Et on finit le bruit qui court avec encore des nouvelles tristes. C'est triste parce que c'est comme ça. Dans la tôle de Châteauroux, suite à un suicide au mitard, le directeur de la prison n'a vraiment pas de honte. Il refuse de restituer les affaires du détenu à sa propre famille. Même sur présentation d'un livret de famille, il prend toujours des prétextes pour refuser et rendre les vêtements, les papiers, les petits effets personnels du détenu décédé. Ironie désolante, ce même Dirlo Jacques Meige, de son nom M-E accent grave G-E, intervenait publiquement en 2009 en tant que directeur adjoint chargé de la prévention du suicide.
Et pour si vous cherchez du soutien auprès d'associations, on vous rappelle qu'il y a l'association Baume Public qui font un recensement des suicides et qui du soutien, et avec tout un truc explicatif pour savoir quoi faire les jours après. Et aussi l'OIP, vous pouvez toujours trouver des soutiens auprès de ces associations.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La lime à ongles, une rubrique sur toutes les évasions.
Vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, sur 102.2 FM. Dans la nuit du 13 mars, 7 détenus du Comico de Denu au Ghana se sont évadés. Ils ont volé 2 kalachnikovs, menacé les flics présents et sont partis. 20 jours plus tard, on est toujours sans nouvelles, ce qui est bon signe.
Et c'était à Ceuta le 21 mars. 15 migrants et migrantes ont tenté de passer par-dessus les immenses barrières du mur d'enceinte de la petite colonie espagnole sur la côte marocaine. Ces migrantes, comme beaucoup d'autres, voulaient entrer dans l'espace Schengen et 4 d'entre eux et elles ont réussi.
Le 23 mars, un détenu de la tôle de Saint-Aubin-Routot était à l'hôpital au Havre. Il en a profité pour tenter de s'évader en menaçant le personnel avec une lame de rasoir. Malheureusement, ça a échoué. Le même détenu était pourtant arrivé à s'évader d'un autre hôpital en octobre dernier.
On continue avec le lendemain 24 mars. Un détenu s'est évadé de la tôle de Rémire-Montjoly en Guyane française. Affecté au nettoyage d'un bâtiment administratif de la prison, il en a profité pour disparaître dans la nature et n'a pas été retrouvé.
En début de semaine aussi, lors d'un transfert de détenus en Roumanie, un flic a eu un moment d'inattention et un détenu en a profité pour sauter une barrière et prendre la poudre d'escampette. Mais ça ne s'arrête pas là, le flic ouvre le portail et se lance à la poursuite du détenu, en oubliant qu'il y en avait un second enfermé. Celui-ci, voyant la porte ouverte, en profite et se barre à son tour. Bien joué. Malheureusement, l'un des deux fugitifs a été arrêté quelques jours plus tard. C'est Harlem Check Tattle. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait des détenus, c'était filmé dans un couloir en se jetant des chaises en faisant Harlem Check et après en imitant un maton. C'est tous les tours improbables que les détenus font dans les prisons. Bah ouais, parce qu'ils sont enfermés et quand même ils continuent à se marrer.
Et cette semaine, c'était impressionnant à voir sur un site de vidéo en ligne, Coreus, coreus.com avec un K, aux Baumettes.
Encore les Baumettes !
Et ouais, à Marseille aux Baumettes, on est dans la cour de promenade. Et là, il y a des détenus qui se filment les uns les autres. C'est l'hiver, il fait frais, on ne sait pas si c'est cette année, sûrement. Ça se voit, ils sont tout emmitouflés, tout ça, mais il y a un brin de soleil, parce que quand même, c'est les Baumettes à Marseille, il y a un brin de soleil. Et on est dans la cour de promenade, on voit un détenu escalader le grillage, qui est lui-même surmonté de fils barbelés. Mais le détenu est plutôt fin et il se faufile entre les mailles avant le premier barbelé. Et hop, un autre vient l'aider et en moins d'une minute, il est de l'autre côté. Et là, il reste un peu là, puis il se barre, mais sans trop se presser non plus, quoi, tranquille. En tout cas, la grande classe, l'évasion filmée et tout doucement, comme ça. On ne sait pas si la cavale a duré longtemps. Mais l'évasion était réussie. Bien joué.
Vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, Pierre par Pierre, sur 102.2 FM, Radio Canu et en streaming sur le site de la radio, partout ailleurs dans le monde. Et oui, on peut nous entendre de partout grâce à Internet.
Le streaming, c'est magique.
Alors bon, il vous reste 7 minutes pour nous appeler. On vous rappelle, le numéro du studio, c'est 04 78 39 18 15. Maintenant, on maîtrise la technologie pour vous passer en direct. Voilà. Alors, on vous rappelle que si vous voulez laisser des messages, des dédicaces et même un morceau que vous partagez avec votre proche qui est enfermé dans les tôles de la région lyonnaise, et bien la petite cuillère prison contre toutes les prisons, c'est faite émission contre
toutes les prisons.
Voilà, c'est pas la prison contre toutes les prisons. Et on peut redire que vous pouvez nous écrire à l'atelier d'écriture La Petite Cuillère, 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon, pour nous écrire des poèmes, raconter les conditions de détention, si vous avez besoin de soutien. Besoin d'une correspondance, tout ça, pour pas péter les câbles, et ben il y a pas de souci, on vous répondra, peut-être pas très très rapidement. Voilà, tout ce qu'on fait c'est bénévole, du coup on n'est pas toujours complètement dispo. Et deux autres numéros encore pour le reste du temps où on n'est pas en studio de Radio Canu.
Et du coup vous pouvez nous appeler 17h30 à 19h avant les émissions. Au 04 78 29 26 00, 04 78 29 26 00, où vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur tous les jours, H24, au 07 81 35 93 71, 07 81 35 93 71, pour passer des infos, laisser un message ou faire un petit enregistrement. Les messages, si vous voulez passer à des proches de détenus, on peut les entendre dans les prisons de Corbat, de Saint-Quentin-Falavier, de Mézieux et dans le centre de rétention administrative de Saint-Exupéry.
Et du coup, je voulais vous présenter une BD qui s'appelle Panther in the Hole, qui parle de trois prisonniers qui appartenaient au Black Panther Party, qui s'appellent Albert Wood Fox, Robert King et Herman Wallace. Du coup, la BD, elle a été soutenue par Amnesty International, qui raconte les conditions de détention, pourquoi les personnes sont retrouvées dans cette tôle, leur chef d'inculpation, et du coup les trois se sont retrouvés ont été enfermés depuis 70 dans cette tôle, la tôle d'Angola, qui s'appelle tristement Angola par rapport au fait que les esclaves venaient de l'Angola et qui travaillaient sur des champs de coton, et que ça a été transformé après en prison. Voilà, du coup triste hommage, cynique hommage, on peut dire, à l'esclavage. Et en fait, ils ont été enfermés en cellule d'isolement, et Robert King a été libéré. Herman Wallace est mort, je vais dire une connerie, mais genre, il était en fin de cancer, il a été libéré, il est mort quelques temps après, et il y a toujours Albert Woodfox qui est enfermé. Il y a une campagne pour le soutenir, pour demander sa libération et pour récupérer des thunes, et c'est pour ça que vous pouvez aller sur... merde, j'ai que Quartier Libre, et c'est un autre groupe qui mène ça, et... Ah oui, c'est Coup pour Coup... Coup pour Coup 31, qui organise un gros soutien et qui récolte des thunes en ligne. Mais voilà, on pourra vous présenter ça dans 15 jours. Et comme pour une fois on a fait un énorme agenda, et ben on va terminer tranquillement avec notre agenda de la petite cuillère.
Parce que si vous avez envie, il y a un week-end chargé qui s'annonce.
C'est ça, il y a plein de choses, et on a envie de prendre le temps de vous présenter les différents événements qu'il y a sur Lyon et ou la région lyonnaise. On commence déjà demain soir dans le cadre du festival Expulsion Immédiate contre justement la fin de la trêve hivernale qui a eu lieu cette semaine, qui a commencé samedi dernier et qui se termine ce week-end. Là, c'est une soirée de soutien à l'émission radio On n'est pas des cadeaux, émission transpédiguine et féministe, qui a lieu le vendredi sur cette même radio de 17h à 18h tous les 15 jours. Et demain, c'est leur émission, je ne sais pas sur quoi c'est. Et le soir, ils font du coup une soirée avec un fidèle castrat qui est issu de la scène transpédiguine toulousaine. Il chante vraiment super bien des textes réalistes, critiques ou érotiques sur des sons électro-samplés vachement bons. Un solo de clown proposé par Vernera Weranda, une conférence sur le sexe biologique femelle du clown féministe totalement débordable. Warner a parcouru ses vérandas pour faire l'éloge du clitoris, l'organe de la volupté ignoré, insulté, condamné, haché, stigmatisé, psychiatrisé, heureusement vénéré par Warner Véranda. Et une expo, facette photographie, présentée par le collectif Umbrella Mushroom. Et ça se passe dans un squat, apparemment, je crois, ou ailleurs. Du coup, pour avoir l'adresse du lieu, faut envoyer un mail sur expulsionimmediate@riseup.net. Waouh, j'ai présenté qu'un truc, il est 58. Je me dépêche. Le soir même à 19h, il y a dans le cadre de la semaine...
Demain soir, toujours.
Toujours demain soir, contre la semaine contre l'apartheid israélien à YAW, la campagne BDS France, du coup c'est des gens qui appellent au boycott de produits israéliens contre la politique israélienne par rapport au peuple palestinien, qui organise la tournée, l'accueil d'un militant anti-apartheid sud-africain, Farid Essak, pour une conférence débat à la Bourse du Travail de Lyon, place Guichard, Lyon 3e, métro B, le bleu... Sortie Guichard, salle Moissonnier, 3e étage, entrée 205 rue Créqui. Voilà, du coup, c'est le collectif 69 Palestine et l'Union juive française. Non, je dis n'importe quoi.
L'UJFP, ouais. L'Union des Juifs français pour la paix.
Ah, voilà, c'était le P, je comprenais plus rien. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Rebellion. Alors, le collectif 69 Palestine appelle à une manif. J'ai trop de papier maintenant. Ils appellent à une manif samedi. Mais là, j'ai l'autre manif qui est organisée. C'est pas sur ton papier qu'il y a ça ?
Ah, alors.
Ah, ça y est, c'est le bordel de la fin de l'émission.
Et non, parce que moi, non. Ça parle de féminisme.
Et ben, ils organisent une manif à 15h, mais mince, j'ai pas le rendez-vous. Et mais en tout cas, c'est. Vous sur Facebook, vous tapez collectif 69 Palestine, vous aurez peut-être l'information, c'est à 15h. En tout cas, il y a une autre manifestation pour l'application du droit au logement. Là, c'est rendez-vous au terreau, le cortège il ira jusqu'à l'école Gilbert Dru dans le 7e, qui est occupée depuis 3 mois pour loger des familles sans domicile fixe. Et voilà, qui appelle à ce que le droit au logement soit appliqué. Et puis, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé mon papier. Collectif 69 Palestine. D'un seul coup, c'est la panique dans les studios.
Last second.
Et là, c'est Place de la République. Pour rappeler l'horreur dans laquelle sont enfermés le blocus du ghetto de Gaza. À 15h, demain après-midi.
Demain à 15h.
Place de la République, entre Station Cordelier et Bellecour. Et puis, on va vous lire une phrase de Banksy, comme ça. « Si on se lave les mains d'un conflit entre puissants et faibles, on se rallie aux puissants, on ne reste pas neutre. » Voilà, c'est Banksy qui a écrit ça dans les rues de Gaza. Et puis, le 10 avril, il y a une marche de nuit non mixte féministe qui démarre Place de la Croix-Rousse.